Nous allons voir tout d'abord la justice du Fils de Dieu. Hier, nous avons étudié la victoire obtenue par le Seigneur Jésus sur la mort. Nous avons vu comment Jésus réalise cette victoire par son incarnation, par une marche vers la mort de façon consciente, par les proclamations qu'il lui a été donné d'adresser aux hommes, et en terrassant la mort par la mort du juste qui donne la vie. Le ministère terrestre du Seigneur ayant été un affrontement entre la vie et la mort, affrontement dans lequel la mort a fléchi et la vie a triomphé. C'est des considérations qui ont toujours trait à la mort victorieuse du Seigneur Jésus, mais nous sommes obligés de la regarder sous ses différents aspects, et c'est pourquoi nous allons consacrer un peu de temps ce matin à méditer sur la justice du Fils de Dieu. C'est peut-être une considération un peu oubliée, un peu négligée, que la justice du Fils de Dieu. Et pourtant, nous qui sommes appelés à la justice, car la vie, je le répète, et nous allons le lire d'une façon textuelle, formelle dans l'Écriture, la vie appelle la justice, et la justice est le support de la vie. Il n'y a pas de vie, il ne faut pas parler de vie éternelle, il ne faut pas parler de vie véritable, il ne faut pas parler de vie de Dieu, si l'on ne parle pas de justice. Par conséquent, n'est-ce pas, se scinder, séparer, même dans l'idée, dans la pensée, la vie de la justice, c'est faire une œuvre impie, mes amis. Et c'est malheureusement ce que quelquefois on a fait, la vie et la justice sont liées. Le Seigneur Jésus, par sa mort, a fait, nous l'avons dit, l'expiation des péchés. Il est venu, c'est un des aspects importants de sa mort, il est venu comme une victime expiatoire donnée par le Père pour faire l'expiation des péchés du monde. Voilà quelque chose qui est solide, qui est dans l'Écriture, dans la première épître de Jean. L'humanité s'en trouve délivrée, et elle s'est trouvée délivrée, cette humanité, aussitôt que Jésus eut rendu l'Esprit. En rendant l'Esprit, ah, vous savez que le Seigneur Jésus l'a dit par une parole, il rendait l'Esprit, en rendant l'Esprit, la justice parfaite, et qui était lié à sa personne. Il est chargé des péchés des hommes, mais ce ne sont pas les siens. La justice parfaite est liée à sa personne. Eh bien, cette justice parfaite, dès que l'Esprit est rendu et que le tout est accompli et prononcé, cette justice reprend sa force impérative. La justice est armée d'une puissance, elle reprend sa force. Et la résurrection ne peut manquer de survenir. Lisons Acte 2, Acte 2, 31. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu, que David, le patriarche David, a prévu par le psaume et qui est cité là dans le contexte, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Il n'est pas possible que le Christ, descendant dans la mort, porteur du fardeau des péchés, et il l'est effectivement cela. Nous ne retirons rien, n'est-ce pas, à cela, cette affirmation elle-même très importante, et lorsque la mort le saisit, eh bien, la justice reprend sa force et il n'est pas possible, impossible, que le Seigneur reste dans la mort. Le verdict que Dieu avait prononcé dans le jardin d'Éden, tu retourneras à la poussière d'où tu as été pris, à l'adresse d'Adam et de toute sa descendance, tu retourneras à la poussière dont tu as été pris. Ça, c'est dans les conséquences de la chute. Tu retourneras. Ce verdict se trouve annulé pour Christ. Il se trouve annulé par la justice restaurée dans l'humanité par la personne du Fils de l'homme qui a pris place précisément dans cette humanité. Alors, ce verdict s'interrompt. Et c'est, vous voyez avec quelle lumière de l'esprit le prophète David, je dis le prophète, il est prophète et roi, ou patriarche David, pouvait annoncer que la chair du Seigneur ne verrait pas la corruption, il ne pourrait pas rester là. En effet, le verdict, tu retourneras dans la poussière, ce verdict s'interrompt. Ça, vous voyez, il s'interrompt pour Christ, allons doucement. Allons lentement, nous décomposons en quelque sorte les pensées, n'est-ce pas, pour mieux pénétrer, mieux comprendre. Nous avons entendu tout cela, nous avons énoncé tout cela en évangélisation, c'est très bien. Mais nous sommes en train, non pas de nous évangéliser, mais nous sommes en train d'approfondir le message que nous n'appelons pas nécessairement évangélisation, mais que nous appelons le message de Dieu, le message de l'Évangile. Ce message de l'Évangile, il est pour nous, et vous voyez que les Épîtres se sont efforcés d'approfondir la connaissance des chrétiens en ce message-là. L'apôtre Paul parle par exemple du baptême, revient sur le baptême, revient sur les antécédents du chrétien, vous étiez mort par vos offenses, il revient sur toutes ces choses pour précisément approfondir. Et c'est ce que nous voulons faire. Le verdict donc du jardin d'Éden se trouve annulé par la justice et qui est attaché à la personne du Fils de l'homme, qui est, par conséquent, lui, sauvé de la mort éternelle. Il est sauvé de la mort éternelle, car Adam ne l'était pas, car tous ceux qui étaient la descendance d'Adam, toute l'humanité, ne l'étaient pas. C'est bien parce que Jésus est venu que nous sommes sauvés de la mort éternelle, sans quoi nous étions voués à la mort éternelle. Il est sauvé de la mort éternelle. Où trouvons-nous cela? Dans les Hébreux, chapitre 5, ou verset 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » C'est lui, c'est Christ donc, qui, dans les jours de sa chair, pendant qu'il était sur la terre, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières, et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a pris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il nous est dit ici qu'il a été sauvé de la mort. Il a, par grand cri, larmes, prières, supplications, il a imploré son Père de le sauver de la mort, il s'agissait bien sûr de son humanité, de le sauver de la mort, mais son humanité, n'est-ce pas, il l'accroche, il la tient, il ne l'abandonne pas, il l'a prise pas pour l'abandonner, il l'a prise pour précisément y accomplir, y accomplir la rédemption. Alors il la tient, cette humanité. Alors des supplications, des prières à celui qui pouvait le sauver de la mort, son père, et ayant été exaucé à cause de sa piété, littéralement, le Seigneur Jésus n'a pas été exaucé puisqu'il est mort sur la croix. Mais de quelle mort a-t-il été exempté, sauvé? Mais de la mort éternelle, bien entendu. Non pas de la mort du corps qui était nécessaire, mais de la mort éternelle. Et c'est bien ça, contre ça que Jésus lutte. Sans quoi, si Jésus avait seulement lutté contre la mort du corps, eh bien, il eût été alors effrayé simplement par cette mort, et il eût, en somme, manqué de courage devant la mort, alors que peut-être d'autres, des héros, des martyrs, sont venus crânement devant la mort, et l'ont affronté sans peur. Alors on ferait de Jésus quelqu'un qui a eu peur de la mort du corps. Vous voyez tout cela ne va pas, n'est-ce pas? Il faut bien penser que c'est devant lui la mort éternelle. Il lutte par ses prières, par ses supplications, contre cette mort éternelle dont il est sauvé, à cause de sa piété. Et car, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance. Il a appris l'obéissance. Il ne la connaissait pas, l'obéissance. Il la connaissait. Il n'a pas besoin d'obéissance en tant que Dieu. Dieu n'obéit pas à Dieu, Dieu est Dieu, Dieu fait ce qui est saint, ce qui est vrai, et Dieu n'a pas à parler d'obéissance en ce qui le concerne lui-même, mais la nature humaine, semblable à celle du péché, comprenons bien cela, la nature humaine qui est le champ d'expérience, qui est le champ de travail, qui est le creuset dans lequel le Saint-Esprit prépare la libération de l'humanité, alors dans ce creuset-là, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a une impossibilité à l'obéissance. La chair semblable à celle du péché que Jésus prend est une chair réfractaire à l'obéissance depuis la chute. Une chair incapable d'obéissance. Elle ne peut pas. La chair ne peut pas faire la volonté de Dieu. Rappelons-nous ces affirmations-là. C'est une chair réfractaire, incapable. Alors, dans cette chair, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, cette chair que le Seigneur Jésus maintient en marge du péché, exempte du péché, mais cette chair a quand même, si vous voulez, sa tare principale qui est d'être réfractaire à l'obéissance à Dieu. C'est ça la marque du péché, c'est ça le péché en elle, c'est ça l'ignorance, c'est ça l'aveuglement, elle est réfractaire à l'obéissance. Et sans obéissance, il n'y a pas de justice. Le Seigneur Jésus va faire réapparaître l'obéissance dans une chair semblable à la nôtre, qui par conséquent est réfractaire à l'obéissance. Il fait réapparaître l'obéissance. Le premier Adam introduit la désobéissance, et cette désobéissance gagne tout, détruit tout, détruit toute relation avec Dieu, tout sentiment d'amour pour Dieu. Eh bien, lui, le second Adam, fait revenir l'obéissance dans la chair. Il apprend l'obéissance, c'est-à-dire qu'il la fait remonter, il la fait réapparaître, il la fait triompher, cette obéissance. Alors, c'est pas seulement... Il ne faut pas seulement voir Jésus comme, pour lui-même, exempt de péché, c'est bien de le voir, mais il faut voir bien plus. Il faut voir celui qui réintroduit l'obéissance dans une nature corrompue, dans une nature réfractaire, absolument réfractaire à l'obéissance à Dieu. Vous comprenez? Ah, vous comprenez? Faire réapparaître. Le Seigneur Jésus est un lutteur. Sa personne n'est pas en cause pour elle-même. Sa personne est là pour lutter, est là pour sauver, est là pour forger. La victoire, la rédemption en sa personne, en son expérience, dans cette chair semblable à celle de tous les hommes. Alors il triomphe par cette, non seulement par ses supplications et ses prières, mais par son obéissance, cette obéissance qui réapparaît. Et je vous le dis, l'obéissance, c'est la justice. Ça, c'est elle qui établit la justice. La justice qui est le grand ordre qui soutient la vie. Dans la personne de Jésus souffrant et mourant, il y a, nous l'avons dit, le poids des iniquités des hommes, ses frères, dont il est chargé. Il entraîne ce fardeau dans la mort, c'est-à-dire dans l'abîme, où ses iniquités sont elles-mêmes englouties. Donc il faut qu'il s'engloutisse, lui, avec son fardeau, avec sa charge qu'il a sur les épaules. Il faut qu'il s'engloutisse pour engloutir la charge, il faut qu'il s'engloutisse, lui. Alors il s'engloutit dans la mort, et logiquement, si ce fardeau, n'est-ce pas, restait solidaire de sa personne, eh bien, il serait englouti à jamais. Et d'où, n'est-ce pas, cette lutte, non seulement contre Satan, le Seigneur Jésus est un lutteur, non seulement contre Satan en Gethsémané, dernière lutte, dernière et on peut dire lutte tragique, lutte qui dépasse toute conception. Des grumeaux de sang tombent alors du visage du Seigneur. Lutte contre les ténèbres, il faut cette lutte encore, dernière à Gethsémané, avant la mort. Et puis, dans la mort, le fardeau est sur lui. Le fardeau, il y a bien des textes, je ne vais pas les rappeler, et qui nous montrent qu'il est chargé des péchés des hommes, de nos iniquités. Il s'en charge, autrement dit, il les assume tous. Il assume tout cela, parce qu'il y a devant la justice une expiation, une réparation nécessaire. Il va engloutir ses iniquités en s'engloutissant lui-même, mais va-t-il rester dans le fond? Va-t-il rester dans l'abîme? Va-t-il rester dans les enfers, dans le Sheol, comme un coupable, comme celui, comme le premier Adam, n'est-ce pas, et toute sa descendance jusqu'à lui, n'est-ce pas, jusqu'à ce que rédemption, expiation ait été faite? Va-t-il rester, lui qui vient faire l'expiation, dans l'abîme? Non, seulement, il faut alors que là, déjà sur la croix, prière, supplication, larmes, il lutte, et cette lutte est nécessaire. Ça nous montre, chers amis, qu'il faut que nous soyons nous aussi des lutteurs. On ne peut pas être victorieux sans être des lutteurs, sans être des combattants. Le combat de la foi, nous ne l'avons pas envisagé dans toute son ampleur, le combat de la foi. À l'instar de Jésus, il faut que nous soyons nous aussi des lutteurs. Bien sûr, ce n'est pas nous qui faisons la rédemption et les fêtes, mais dans la suite de la rédemption, dans la suite, dans la mise en, si vous voulez, en exploitation, dans le cours des années, n'est-ce pas, où il faut faire valoir ce qui est écrit, la rédemption de Christ, il faut que nous soyons nous aussi des lutteurs pour être des vainqueurs. Sa parfaite justice, rétablie par l'obéissance dans ce creuset humain où tout se joue, dans ce creuset humain, alors cette parfaite justice attachée à sa personne, avec les prières, avec les supplications, tout cela va l'arracher à la puissance du Sheol. Et c'est bien ce que les psaumes exprimaient. Quand les psaumes expriment quelque chose qui semble mettre en question seulement le psalmiste qui exprime cela, mais quand les hommes d'avant le Seigneur Jésus, et nous qui sommes après, n'est-ce pas, eh bien, mais eux qui n'avaient pas encore connu l'œuvre de Dieu, l'œuvre de rédemption, eh bien, lorsqu'ils exprimaient l'espérance, le désir puissant, et même qu'ils entrevoyaient le salut éternel, eh bien, ils exprimaient cela, c'est que personne humaine, donc la personne du Fils donné à Israël, serait arrachée à la puissance du Sheol, du séjour des morts. Lisons le psaume 49:16. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Est-ce que Dieu va faire ça comme ça, par un acte de générosité, un acte, évidemment, qui interviendrait comme cela, par une seule simple décision, sans que Dieu se soucie de sa justice, qui a été froissée, qui a été meurtrie, méconnue, foulée aux pieds? Jamais! Alors, quand « Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts », enfin, avant tout, de telles choses sont prophétiques, parce qu'il faut qu'elles soient prophétiques avant de s'appliquer à la masse des hommes, elles s'appliquent avant tout au Seigneur Jésus. Le psaume 73, verset 24 à 28. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Eh bien, cela, c'est bien le cri du psalmiste. C'est bien sa profonde espérance. C'est bien le Saint-Esprit qui lui donne d'espérer cela. Mais cette parole ne peut être que d'abord prophétique pour s'appliquer à celui qui vient comme le Fils de l'homme pour anéantir la mort et le péché. Ça ne peut s'appliquer qu'à lui, c'est lui qui d'abord est arraché à la puissance du Sheol, pour que d'autres hommes puissent espérer aussi être arrachés à la puissance du Sheol. Et Pierre, lorsqu'il prêche son premier message d'évangélisation, le premier message de tous les messages d'évangélisation, eh bien, il parle, lui, de cela, le Saint-Esprit le guide, et lui montre cette action qui s'est joué en la personne de Jésus, en sa lutte, en toute son œuvre pour arracher l'homme à la puissance du Sheol. Ainsi, il y a, dans le cœur du psalmiste, quel qu'il soit, des espérances inspirées qui sont bien les siennes, mais qui expriment celles de tous les hommes de foi, mais qui doivent tout d'abord se réaliser pour Jésus, tout d'abord en premier. Elles sont donc prophétiques. Vous comprenez pourquoi les choses du psalmiste sont prophétiques. Vous comprenez pourquoi David, lui, surtout, exprime des choses prophétiques. Et il les sent, ces choses-là. Il les sent. Et lui, chez lui, ça va très loin. Ça va très très loin chez cet homme qui est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire, n'est-ce pas, la vie, l'expérience de ce roi prophète. Parce que ils disent « percer mes mains et mes pieds ». Jamais personne n'a percé ses mains et ses pieds à lui, David. Et quand il le dit dans le psaume 22, eh bien, il ne le dit pas gratuitement, il ne le dit pas seulement en récitant quelque chose que lui suggère ou que lui révèle le Saint-Esprit. Il ressent les choses, il les ressent. Quand il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il sent ces choses, il ressent quelque chose. Et tout ce qu'il dit là a une valeur prophétique, mais non seulement pour lui, pour tous les autres psaumes, dès qu'il y a apparition de l'espérance de la vie éternelle, de la délivrance du Sheol, immédiatement ces paroles deviennent prophétiques car elles sont d'abord pour Jésus. Il faut que Jésus, lui, soit arraché pour que des hommes le soient. Vous voyez, n'est-ce pas, apparaître là la grande unité des Écritures. Voyez comme c'est intéressant, n'est-ce pas, de méditer un peu large, pas méditer toujours le nez attaché à un verset. Alors on veut méditer sur ce verset, puis on reste sur ce verset, on voudrait lui arracher son secret à ce verset, son secret même spirituel. Mais attention, Ce verset n'est pas tout seul. Ce verset, dans le grand contexte de la Bible, il faut voir large. Il faut toujours se rapporter au message dans toute son ampleur. Et alors, Jésus possède en sa justice, lui qui restaure l'obéissance, lui qui l'a fait réapparaître dans un milieu réfractaire, le corps de l'homme, la chair de l'homme, il fait réapparaître l'obéissance, il possède en cette justice la force de réaliser toutes les espérances que le Saint-Esprit a fait exprimer au psalmiste ou à d'autres. Toutes ces espérances-là en bloc, eh bien, sa justice porte la force de les réaliser. Nous allons voir juste quelques textes pour asseoir ce que je viens de dire. Hébreux 1, 9. 1, 8 et 9. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Je ferai remarquer à ceux pour qui s'est posée par incidence la question de savoir si l'on devait vraiment croire à la divinité du Seigneur Jésus. Bien sûr, je sais que vous y croyez, mais je veux vous rassurer encore. Comment ce texte pourrait se justifier? Pourrait-il se justifier? Je vous en montrerai d'autres tout à l'heure. Pourrait-il se justifier si Jésus-Christ n'était pas Dieu? Et quand on est Dieu, on ne peut pas devenir Dieu. On est Dieu de toute éternité. On ne peut pas le devenir. Personne. On peut avoir la divinité, la vie divine, la divinité, je veux dire, participation à la vie divine, n'est-ce pas? Comme cela est dit, et nous l'avons, et nous l'aurons, mais devenir Dieu, non, n'est-ce pas? Ton trône, ô Dieu, est éternel. Eh bien, tu as aimé la justice, c'est ce qui nous intéresse maintenant. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Voyez, cet amour de la justice, cet attachement du Sauveur à la justice, c'est remarquable cela, c'est un fait remarquable. En lutteur, il va lutter, combattre, parce qu'il veut faire triompher la justice. Il est venu pour cela. Tu as aimé la justice. Et puis, Romains 5:18 nous dit, en nous parlant de la croix, ainsi donc, comme par une seule offense, celle du premier Adam, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Un seul acte de justice, cet acte de justice s'opère, s'accomplit à la croix de Golgotha. Eh bien, cet acte de justice apporte la justification des hommes, et vous savez quelle importance l'apôtre Paul, précisément dans les Romains, donnera à cette justification. Bien sûr, elle est ailleurs dans l'Écriture, mais Paul particulièrement s'en fait l'ardent défenseur, n'est-ce pas, de cette clarté, de cette révélation sur la justification des hommes. Eh bien, vous voyez quelle importance ça a, mais celui qui apporte la justification, c'est celui qui a restauré la justice, il a aimé la justice. Et nous allons voir quelques textes de l'Ancien Testament, rapidement, pas des quantités, mais ces textes-là, prennent toute leur lumière dans le cadre de ce que nous venons de méditer. Alors, c'est d'abord dans les Proverbes, Proverbes chapitre 10 et verset 2. Vous voyez comme la Bible est vraiment harmonisée, comme elle est. Ne voyez pas des contradictions textuelles, on en a parlé ces jours-ci, j'en ai déjà fait justice ici, de ces contradictions textuelles, nous avons étudié cela, je le referai, je ne sais pas, mais enfin, disons que la chose peut être faite, n'est-ce pas? Mais, lisons de ceci, qui nous montre encore vraiment ce grand accord, cet accord général de toutes les pensées dans la Bible. Il y a là vraiment une harmonie, un accord d'ensemble qui est un remarquable, c'est un grand miracle, ce qui montre que la Bible n'est pas le livre des hommes, mais bien le livre de Dieu. Alors, verset 2, « Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. » Ah, la justice délivre, la justice a cette force, ce pouvoir de délivrer de la mort, et elle va délivrer Jésus de la mort. Nous venons de le voir dans Hébreux 5, n'est-ce pas? Il a été exaucé, il a été délivré de la mort éternelle par sa justice, ayant appris, lui, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et puis, toujours dans les Proverbes 11, 19, c'est en des termes différents la même chose. Ainsi, la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. La justice conduit à la vie, elle mène à la vie. La justice, nous la trouvons dans la justification, et la justification, nous la trouvons dans une personne, le Seigneur Jésus, et c'est en quoi Jésus est le chemin qui nous mène à la vérité et à la vie. Et puis nous avons 13, toujours dans les Proverbes. La justice garde celui dont la voie est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. La justice garde, elle conserve celui dont la voie est intègre. Et nous avons aussi Ésaïe 59. J'aime bien vous faire découvrir, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, toutes ces choses qui sont en pleine harmonie avec la théologie du Nouveau Testament, qui est la théologie de l'Alliance Nouvelle. Mais vous voyez, n'est-ce pas, quel ensemble tout cela constitue. Chapitre 59, verset 15. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, son bras lui vient en aide, et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement, et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis, il rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite, un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Et le salut par un rédempteur qui vient là, mais ce rédempteur, eh bien, il vient et c'est la justice qui lui sert de moyen, qui lui sert d'appui. Alors son bras lui vient en aide, bras désigne dans l'ensemble de l'Ancien Testament, d'une façon indirecte, le Messie lui-même, le rédempteur qui vient. Mais d'ailleurs il est nommé au verset 20, un rédempteur viendra pour Sion, pour cieux de Jacob. Ne soyez pas étonnés, souvent que dans l'Ancien Testament, le rédempteur soit annoncé pour Sion, pour ceux de Jacob, c'est-à-dire pour Israël, parce que le salut donné aux païens est la prolongation, tout simplement, ou l'association, si vous voulez, des païens à l'alliance donnée à Israël. Le salut vient des Juifs, il ne faut pas oublier cela. Par conséquent, quand nous voyons, n'est-ce pas, que quelque chose est destiné à Israël, ça peut être historiquement et même prophétiquement destiné vraiment à ceux qui sont issus par la chair d'Abraham, mais attention, bien souvent, C'est plus large et c'est destiné à l'Israël de Dieu autant qu'à l'Israël peuple physique. Prenons garde à cela. Ainsi, la justice, il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. C'est de cela que l'apôtre Paul s'empare dans Éphésiens 6. Ainsi, la mort et la résurrection du Christ sont les deux faces indissociable de l'événement unique, un seul sacrifice, une seule mort, l'événement unique par lequel s'effectue le passage du monde présent au monde à venir, de ce siècle-ci, comme disait Jésus, au siècle à venir. Ce passage du monde présent au monde à venir, alors qu'il y a là une solution de continuité, c'est-à-dire, n'est-ce pas, une interruption, il y a là une coupure, eh bien ce passage, c'est la mort et la résurrection du Christ qui l'assure, si bien que cette mort et cette résurrection sont indissociables, elles constituent ensemble l'événement unique par lequel s'effectue le passage. Et là, se résout le conflit entre la mort et la vie. Le conflit entre la mort et la vie. La mort, c'est le contraire de la vie. D'ailleurs, comme nous avons beaucoup de savants, et des savants qui ne savent pas toujours quoi se mettre sous la dent, parce qu'il leur arrive souvent d'être à court dans certains domaines, étant donné qu'ils se ferment une source énorme d'informations. Ils veulent rester dans le domaine absolument rationnel, ils veulent que tout puisse se déduire de l'observation, de l'expérience, et s'interdisent d'aller au-delà. C'est peut-être bon, oui, ça a peut-être été une consigne nécessaire, mais une consigne qui est devenue un aveuglement par l'excès qu'on en a fait. On a fermé donc la porte à d'autres sources d'informations, à des sources irrationnelles, et une partie du monde scientifique s'est d'ailleurs aperçue que c'était une stupidité de fermer la porte à l'irrationnel, et bien des scientifiques se sont dit, eh bien, forçons la porte et allons un peu explorer du côté des choses irrationnelles, et on a trouvé en effet dans l'irrationnel, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas résulter toujours de ces déductions de cause à effet, eh bien on a trouvé dans le domaine irrationnel, en effet, des connaissances qui manquaient. Mais il faut pousser cette recherche dans l'irrationnel jusque dans l'Écriture. L'Écriture est irrationnelle. Elle est rationnelle pour Dieu, elle est rationnelle pour ceux qui croient, mais elle est irrationnelle, bah, vue de la terre, elle est irrationnelle, c'est-à-dire que elle ne se soumet pas au raisonnement humain, et elle ne peut pas s'y soumettre. Elle est une révélation de Dieu qui vient de l'invisible, et elle apporte des notions et qui, précisément, ne peuvent pas entrer dans le champ étroit des connaissances rationnelles de l'homme. Il y a un grand conflit entre la mort et la vie, disais-je, et certains de nos savants l'ont si bien réalisé qu'ils ont dit ceci, c'est un de nos savants du 19e siècle, commencement du 20e siècle, c'est Bichat, le professeur Bichat. Qui disait ceci, la vie, c'est tout ce qui tient les forces de la mort en échec. Autrement dit, la vie, c'est l'échec de la mort, momentanément, n'est-ce pas ? La vie, eh bien, c'est quand il n'y a pas la mort. Alors, si nous arrivons à peu près à ça, et Jean Rostand, dans un livre assez récent, c'est plus, lui, avec son humour habituel, à relever toutes les définitions tentées sur le plan scientifique de la vie et de la mort, et il montre évidemment le désarroi qui s'est présenté dans cette recherche. Alors, nous pouvons ici, n'est-ce pas, simplement nous représenter ceci, c'est qu'entre la vie et la mort, il y a une opposition, bien sûr. La mort, elle nous est présentée dans la Bible comme ce séjour insatiable qui veut toujours prendre à lui, prendre, dévorer, absorber. La mort est insatiable, la mort a une jalousie, nous est-il dit même, dans le Cantique des Cantiques. Eh bien, ce conflit entre la mort et la vie est résolu. Il est résolu à la croix. Le conflit qui enserre toute l'humanité, la couverture qui couvre tous les hommes, elle est enlevée. L'humanité ancienne, c'est-à-dire l'humanité dérivée du premier Adam et restée telle qu'elle était par la conséquence de la chute, la condamnation s'était étendue à tous les hommes, donc l'humanité ancienne, c'est l'humanité condamnée, irrémédiablement condamnée, eh bien, cette humanité meurt. Une fraction de cette humanité, qui sera peut-être à notre gré importante, mais n'avons pas à chiffrer, une fraction de cette humanité sera laissée dans la mort. Pourquoi ? Eh bien, par défaut de foi, par incrédulité précisément, et parce que, en raison de cette incrédulité, on aura laissé hors de soi cette solution au conflit de la mort et de la vie, cette puissance de vie qui est en Jésus. Il aurait fallu accepter de mourir à soi-même, de mourir au péché. Il faut passer pour cela par une repentance, et cela répugne à beaucoup de cœurs orgueilleux qui s'arment de prétextes rationnels. Tous les gens que j'ai rencontrés, plus ou moins scientifiques, et qui ont contesté le message du salut, eh bien, tous ces gens-là se donnaient des prétextes, pas plus. Le péché et la mort, qui sont les puissances infernales au milieu desquelles et par lesquelles Satan s'active, ah, il est dans ce domaine-là, c'est là son domaine, les puissances infernales. Il les manie, ces puissances infernales. Eh bien, péché et mort, qui règnent depuis la chute, lâchent prise, nul ne leur échappait, mais Christ, par sa victoire, leur fait lâcher prise. Le Christ est le seul vrai juste, le seul juste, il n'en a pas paru un autre. C'est justement cela qui est remarquable et qu'il faut remarquer. Le seul vrai juste assume toutes les conditions d'existence des fils d'Adam, c'est-à-dire qu'il entre dans l'existence de l'humanité, il assume tout. Il assume la faiblesse, il assume la possibilité de mourir corporellement, il assume absolument tout, il assume la fatigue, il assume le besoin de se déplacer par exemple à pied, il assume exactement toutes les limitations, toutes les contraintes de l'humanité, tous les caractères de l'existence de l'homme depuis Adam, depuis la chute d'Adam, parce qu'avant l'existence était toute différente, chers amis. Je n'en ai jamais parlé d'une façon assez étendue, mais c'était tout à fait différent. Eh bien, il assume ses conditions d'existence, qui sont les nôtres, il meurt, non pas parce que le péché est en lui et parce que le péché le fait mourir, comme c'est le cas des autres hommes, mais parce que le péché, extérieurement à lui, le pousse dans la mort avec haine, avec frénésie. Aussi, la mort dont il meurt est la mort au péché. La mort dont il meurt est la mort au péché, et elle est la mort à la mort. La mort de Christ est la mort à la mort. Mort irrévocable, car le Christ possède en lui la vie de Dieu. C'est là, n'est-ce pas, qu'il faut bien voir aussi réapparaître, l'expérience se faisant dans l'humanité, réapparaître cette divinité qui s'est en quelque sorte contenue et qui s'est mise au repos et a laissé l'humanité en proie avec toutes ces adversités qu'il s'agissait de vaincre, l'humanité de Jésus se trouve là, à Gethsémané, seule, lors de la tentation, seule. Mais sa divinité n'est pas perdue, elle n'est pas absente, mais elle se tient volontairement en repos. Dieu, n'est-ce pas, se tient en repos. Il est là, mais il est cette humanité, je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Elle est le champ d'expérience, et il faut laisser l'expérience dans toutes les conditions, disons, justes, saines de l'expérience. Il ne s'agit pas de faire une fausse expérience, de donner une victoire qui résulterait d'une impossibilité, d'une défaite. Il s'agit, n'est-ce pas, de laisser l'humanité de Jésus, une humanité naturellement exempte de péché, sans ça, alors la propension au péché y aurait été aussi. Alors exempte de péché, cette humanité lutte et remporte la victoire. Mais attention, aussitôt la victoire remportée, la divinité se manifeste elle aussi. Et cette divinité se manifeste en Jésus comment? Mais par la vie. Où la vie serait-elle, n'est-ce pas, d'où proviendrait-elle? D'où viendrait-elle? De comment afflurait-elle en Jésus? Comment pourrait-elle se donner à partir de Jésus si elle ne provenait de la divinité, précisément de celui qui a pris l'humanité pour lutter? Il possède en lui la vie de Dieu. Cette vie, alors, va immédiatement, n'est-ce pas, jaillir, parce que place nette est faite, la victoire sur le péché et la mort est remportée. Alors cette vie va jaillir, elle va jaillir, on peut dire, du sein du domaine de la mort. Je vous l'ai dit, aussitôt l'esprit rendu, n'est-ce pas, la justice reprend sa force et la vie de Dieu jaillit. Et le Seigneur reste vivant quant à l'esprit, mort quant à la chair. Il faut qu'il soit mort 3 jours, ça c'était la sagesse de Dieu, 3 jours et 3 nuits. Il n'est pas mort un vendredi soir d'ailleurs, n'est-ce pas, mais un mercredi à 15h. Le mercredi à 15h pour ressusciter le samedi soir, et non pas le dimanche matin. Enfin, tout cela, je l'ai déjà énoncé, mais nous n'en avons pas fait l'étude, et pourtant cette étude est facile dans les Écritures. Alors, Christ réapparaît par résurrection dans la vie de Dieu, et il y a quelque chose qui apparaît. Lui apparaît dans la vie de Dieu, mais Christ n'est pas passé par tout cela, par tout ce chemin-là, pour lui. Il est passé pour l'humanité, bien entendu. Alors, la vie de Dieu apparaît en lui, mais en lui apparaît le fruit de ses luttes. Le fruit de ce travail, le fruit de cette restauration de la justice par l'obéissance, et ce fruit-là s'appelle l'homme nouveau. L'homme nouveau. À la divinité de Jésus est toujours uni un homme, mais cet homme transformé dans ce passage, dans ce tunnel de la mort, transformé parce que la mort a été vaincue, elle a commis un excès. Elle a commis une œuvre qui l'a trompée, Satan a commis une œuvre qui l'a trompée, un excès, la mort a commis un excès. Alors là, tout est affranchi, ça y est, et l'humanité de Jésus apparaît alors triomphante, son humanité, c'est l'homme nouveau. L'homme nouveau en un seul exemplaire, en une seule unité, c'est le grain de blé qui tombé en terre, va montrer alors sa fécondité, il va donner beaucoup de grains semblables à lui. Et l'Épître aux Romains nous dit du Seigneur Jésus qu'il ne meurt plus. Et le Seigneur Jésus devient un principe de vie. Ah, l'expérience a été conduite jusqu'à pleine réussite, plein succès, tout est accompli. Et dans le tout est accompli, nous avons souvent le tort de ne voir que l'accomplissement du dessein de Dieu. C'est vrai qu'il y est. Tout est accompli, ça veut bien dire, eh bien, tout ce que les Écritures avaient annoncé, avaient révélé du plan de Dieu, tout ce qui était inscrit dans le plan de Dieu, tout ce qui était juste, par conséquent, le Seigneur l'appelle ainsi, tout ce qui est de Dieu, c'est juste. Alors, tout cela est fait, est accompli, l'œuvre est en somme, l'œuvre de la rédemption est achevée. Il y a cela. Et, chers amis, il y a un double sens qui souvent échappe. tout est accompli. L'homme nouveau est accompli. L'homme nouveau est accompli. L'homme, il y a un accomplissement de l'homme pour la vie éternelle. L'homme nouveau est accompli. Le dessein de Dieu est accompli. Bien sûr, mais ce dessein de Dieu tendait à faire apparaître l'homme nouveau, créé selon une justice que produit la sainteté, la vérité, une justice. Cet homme nouveau, eh bien, dont parle si bien l'apôtre Paul, l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité, dans une justice. Voilà cet homme nouveau, il est là. Un exemplaire, un seul. Il y en a un à la résurrection, il y en a un. Mais celui-là va donner beaucoup de fruits, va porter du fruit. Alors, en Jésus apparaît un principe de vie. Et ce principe de vie est énoncé de différentes manières. Il est énoncé, par exemple, dans 1 Corinthiens 15 et 45, Jésus est déclaré être un esprit vivifiant, un esprit qui donne la vie. Et alors, dans Jean, bien sûr, Jean 5, 21, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Un esprit vivifiant qui donne la vie. Il a un principe de vie. Quand je dis un principe de vie, je dis une source de vie. Il est un principe, principe dans le sens de source, n'est-ce pas ? D'essence qui va s'amplifier, qui va se répandre. Il est un principe de vie. 5.21, 6.57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Principe de vie, source de vie. Il communique une vie qui ne va plus se perdre. Chapitre 11, verset 25, toujours dans Jean, chapitre 11, verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, je suis celui qui croit en moi, vivra quand même il serait mort. Ah, en voilà, n'est-ce pas, du paradoxe encore. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, crois-tu cela ? Nous aurons l'occasion de revenir à ces textes parce que ils sont au futur et je vous montrerai pourquoi, enfin demain, pourquoi ils sont au futur. Bien, et puis nous avons un texte important et qui établit, alors là je l'ai souligné parce que je vous ai dit tout à l'heure que la divinité du Seigneur Jésus, qui je pense bien n'est pas en cause dans votre foi, mais enfin qui de l'extérieur a pu être mise en question, n'est-ce pas ? Alors ça, attention, il faut être honnête là-dessus surtout, mes amis, hein, pas question de réfléchir à nouveau ou de vouloir disserter sur la divinité du Seigneur Jésus. Elle est un objet de foi, un objet tout entier et indispensable à notre salut. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, il faut croire ce qu'est le Seigneur Jésus. Les Juifs voulaient bien croire qu'il était un prophète, croire qu'il était un homme supérieur, un rabbi, mais ils ne croyaient pas qu'il était le Fils de Dieu et qu'il était par conséquent essence divine, la parole incarnée. Ne croyez pas cela. Et le Seigneur leur dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Pas question par conséquent, n'est-ce pas, de jouer avec cela, mes amis, ce serait jouer avec son salut. Sachons-le bien, que les choses soient nettes à cet égard. Mais je voudrais vous montrer un texte où apparaît nettement une déclaration. On a dit qu'il n'y avait pas de déclaration. Cela est une contre-vérité. Il y a des déclarations nettes, claires, de la divinité du Seigneur Jésus, qui en outre, n'est-ce pas, et on peut dire implicite dans tout le message. Hein? Alors, je vais vous montrer une déclaration nette, puisqu'on en veut. Eh bien, en voici une, 1 Jean 5. Je prends la... j'aurais pu prendre ici, je crois, la Bible Second, première épître de Jean, chapitre 5. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Bon, le Fils de Dieu, c'est bien Jésus. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Ah, alors, le véritable ici, nous pouvons dire, c'est Dieu le Père. Il nous a fait connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable, donc dans le Père, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Pas la peine d'aller chercher plus loin. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu, et j'ai pu étudier cela dans le texte original, dans le grec, c'est tout à fait clair, net, la phrase est bien celle-là. C'est lui, c'est le Christ, c'est lui, il vient d'être nommé, en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et puis, n'est-ce pas, pour confirmer cela, dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Alors, le commencement de la création, mais il est le véritable. Vous voyez que le Seigneur Jésus est bien appelé le véritable. Or, le véritable, nous le voyons, c'est un titre, c'est une qualité qui n'appartient qu'à Dieu. Il est le véritable. Alors, chers amis, surtout que cette question de la divinité du Seigneur Jésus ne soit jamais mise en question. Attachez-y de tout votre cœur votre foi afin que vous plaisiez à Dieu et que vous soyez de ceux qu'il introduira dans son royaume. Et puis une autre déclaration, on peut la citer aussi, elle est dans l'épître de Tite, au chapitre 2 et au verset 10. Je réponds là un peu à des questions qui m'ont été posées, n'est-ce pas, mais enfin sans préciser. Alors, la divinité du Seigneur Jésus, nous l'avons appuyée fortement l'année dernière et même encore l'année d'avant, et cette année je le fais également parce que cela est indispensable, chers amis. Nous avons au cœur trop d'amour pour les enfants de Dieu pour les laisser, n'est-ce pas, dans l'expectative sur un point essentiel de la révélation, n'est-ce pas, et de ne pas vous laisser en proie par conséquent, n'est-ce pas, à des dangers, à des périls, quant à votre salut. Alors, disons, Tite, je vais prendre dans la version Darby qui traduit, elle, littéralement, cela confirmé avec le grec, confirmé avec d'autres traductions. Malheureusement, Second n'a pas bien traduit là. Hein. Il a ajouté quelque chose qui ne va pas. Tite 2.13. Je lis le verset sans lire le début de la phrase. En attendant la bienheureuse espérance, alors là je lis dans Second, n'est-ce pas, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Et c'est Second qui n'était pas, lui, exempt d'un certain rationalisme. Hein, il était un petit peu rationaliste, comme on dit, sur les bords. Mais les bords, la bordure était un peu large. Et alors, il n'était pas tout à fait exempt de cela. Et alors là, il lui a cru bon d'ajouter un 2. Et ça, c'est lui qui l'ajoute. Alors voici la véritable traduction littérale dans la version Darby, chapitre 2, donc verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. En attendant, n'est-ce pas, la bienheureuse apparition, l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. D'ailleurs, il n'est pas question du tout que Dieu le Père apparaisse. Pas du tout. L'apparition, la parousia, l'épiphanéia, c'est Jésus-Christ seul, revêtu de la gloire, bien sûr, mais c'est Jésus-Christ seul qui apparaît. Ce n'est pas Dieu le Père. Par conséquent, il s'agit ici d'apparition, ça ne peut pas être l'apparition de Dieu le Père. Ça ne peut être que l'apparition de Jésus-Christ, Il n'y a que cette apparition-là qui soit révélée. Alors ici, l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Alors, allons ergoter après ça, n'est-ce pas? Autrement dit, apportons des dénégations à la Sainte Écriture, eh bien ça, c'est se placer sous un anathème. Ne faisons pas pareille chose, bien sûr. Nous arrêtons là, ce matin.